liberté religieuse. Et puis le regard de l'Église sur les autres religions et le dialogue de l'Église avec les autres religions. Alors je ne développerai pas ce que c'est que l'œcuménisme, mais le but est de voir quel est le regard de l'Église qui sous-tend non seulement l'œcuménisme, mais le dialogue avec les autres religions. Et puis c'est en même temps l'occasion de réfléchir sur ce à quoi nous invite tout le Concile, quel est le rapport de l'Église avec le monde, et quelle est la place de l'Église par rapport au monde. Quelle est la place de l'Église par rapport aux autres traditions religieuses? Et quelle est l'action de la grâce au-delà des frontières visibles de l'Église? Alors c'est en même temps, on va le voir, un thème qui est très actuel, et c'est vrai que l'Église est obligée de répondre à un certain nombre de problèmes qu'elle n'a pas eu à affronter jusque-là, pour deux raisons. La première, c'est que l'Église ne s'est jamais trouvée face à une civilisation post-chrétienne, et c'est la première fois qu'elle a à le faire. Donc elle s'est toujours trouvée uniquement face à des traditions religieuses. Alors qu'aujourd'hui, elle se trouve non seulement face aux traditions religieuses, mais face à un monde occidental qui est sécularisé et dont on va voir qu'il fait apparaître certains problèmes qui ne sont pas que des problèmes négatifs. On va voir précisément sur la liberté religieuse qu'au fond, l'Église a mûri son jugement dans ce domaine, si vous voulez, a approfondi son regard sur le problème de la liberté religieuse à cause de cette confrontation avec le monde et notamment avec le monde occidental. Alors, ce qu'on peut regarder quand on regarde l'écriture, dans un premier temps, c'est voir que déjà dans l'Ancien Testament, il y a tout un nombre de textes prophétiques qui ont une visée universelle. Et donc l'Ancien Testament ne limite pas l'adoration de Dieu au peuple d'Israël. Et il y a déjà implicitement la reconnaissance d'un ordre entre les nations, entre les goïms, et le peuple d'Israël. Autrement dit, Israël n'est pas simplement le seul peuple qui adore Dieu et qui n'est qu'un signe de condamnation pour les autres. Israël est pour les nations le témoin de l'adoration du vrai Dieu. Et elle ne l'est pas que dans un sens de condamnation, elle est aussi dans un sens positif. Alors c'est surtout les textes dans Isaïe, le livre de la sagesse. Et on voit, vous voyez, c'est déjà intéressant parce que je dirais, ça va nous éclairer sur certains problèmes qui se sont posés à l'Église. Dans ces textes prophétiques, on voit cette dimension universelle du peuple d'Israël. Et en même temps, pratiquement, quand on regarde l'émergence du peuple d'Israël par rapport aux tribus païennes qui l'entourent, on voit que cette émergence, elle se fait en massacrant tous ceux qui sont pas d'accord avec elle. Et selon la volonté de Dieu, en plus. Vous voyez, on voit tout de suite qu'il y a déjà un problème dès le point de départ. C'est une chose, ce dont Israël est dépositaire au point de vue de sa foi devant Dieu et pour l'humanité. Et la manière dont elle est obligée de s'affronter à un monde qui est un monde païen, et qui, enfin, qui vit l'idolâtrie. Et on est obligé de tenir les deux bouts. Vous voyez, on ne peut pas choisir, dire simplement la vocation d'Israël était d'être témoin de l'adoration du vrai Dieu, et c'est l'interprétation subjective du peuple d'Israël de massacrer les tribus païennes. Et inversement, on ne peut pas dire non plus que les visées universalistes des visions prophétiques sont réservées uniquement à la gloire et au royaume de Dieu et n'ont rien à voir avec la vocation historique du peuple d'Israël. Je dis ça parce que c'est une tension qui existe dans la théologie juive, et qui existe déjà dans la théologie de l'Ancien Testament. Ensuite, dans l'Évangile, oui, il n'y a pas de texte dans l'Évangile qui fasse directement allusion au thème de la liberté religieuse ou au dialogue avec les autres religions, mais il y a deux passages qui me semblent très importants. C'est Jésus face aux Grecs dans Saint Jean et l'attitude du Christ face aux Samaritains. Comme le Christ face à Pilate. Vous voyez, le discours de Jésus face à la Samaritaine est très impressionnant. La manière dont il... En même temps, il affirme que le salut vient des Juifs. Et en même temps, il réveille dans le cœur de la Samaritaine ce qu'il y avait de juste dans son désir d'adorer. De la même manière que face aux Grecs, à ces Grecs sans doute prosélytes, qui adorait Dieu, il ne dialogue pas de la même manière qu'avec les pharisiens ou avec les scribes. Et que face à Pilate, il a un dialogue qui est simplement humain, qui ne fait pas appel immédiatement à la dimension religieuse et à la tradition juive. Alors c'est essentiellement à partir de ces textes que déjà Saint Paul, enfin à partir de cette attitude, que déjà les épîtres pauliniennes, et puis après ça les pères de l'Église, auront le souci d'aider les chrétiens à discerner dans le milieu qui les entoure ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui relève proprement d'une recherche de Dieu, ou ce qui n'est pas incompatible avec une recherche de Dieu, et ce qui s'oppose à l'homme ou à Dieu. Vous voyez, et d'une certaine manière, c'est très intéressant de voir que chez Saint Paul, on a ce problème, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est déjà le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inculturation, hein. Qui est d'apprendre à discerner dans une culture non chrétienne ce qui conduit l'homme vers Dieu et ce qui l'en écarte. Et ce qu'on devra essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les clés de ce discernement. Et ce qu'on est obligé de souligner, et ça c'est un fait d'histoire de l'Église dont on est obligé de tenir compte, c'est l'unité progressive, enfin si vous voulez, la manière dont la foi chrétienne a engendré une civilisation chrétienne. Et donc, dont progressivement, dans cette civilisation chrétienne, le regard porté sur les autres religions. Le regard porté sur la liberté religieuse ne s'est plus simplement fait au nom de la foi chrétienne, mais au nom de la culture et de la civilisation chrétienne. Je dis ça pour ne pas condamner ou ne pas justifier trop vite l'attitude des chrétiens et même des hommes d'église dans le cours de l'histoire de l'église face au problème de la liberté religieuse et face au problème des autres religions. En voyant bien que dans ce jugement, il y a des éléments qui relèvent d'un discernement de foi, ce qu'on va essayer de voir, d'un discernement qui s'appuie sur la tradition de l'Église dans ce qu'elle a de plus profond. Et puis il y a des éléments de ce discernement qui relèvent de l'histoire, c'est-à-dire qui relèvent d'une civilisation face à d'autres civilisations, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, je ne peux pas donner de la même manière que je ne peux pas donner la même importance dans l'Ancien Testament et attribuer de la même manière à la volonté de Dieu le fait de destiner Israël à être témoin du vrai Dieu et le fait de demander à Israël d'éliminer les Périsites, les Hivites, enfin les sept tribus de... Vous voyez, les Jébuséens et autres, je ne peux pas attribuer au point de vue théologique la même valeur à ces deux, vous voyez, à ces deux événements qui sont liés tous les deux à la volonté de Dieu. Mais lesquels sont... Vous voyez, est-ce que la question est de savoir, déjà dans l'Ancien Testament, est-ce que ce massacre des tribus d'Israël est une volonté de Dieu ou une permission de Dieu? Est-ce que c'est une pédagogie de Dieu ou est-ce que c'est une nécessité? Mais je ne peux pas l'éviter, ce problème-là, à cause de la parole de Dieu. Mais de la même manière, je ne peux pas éviter, analogiquement, si vous voulez, je ne peux pas éviter le même problème... Quand dans l'histoire de l'Église, je vois, il y a d'une part, on va le voir, la vocation chrétienne et la foi chrétienne, qui est un appel à éveiller dans l'homme tout ce qui l'oriente vers Dieu, et à convertir dans l'homme tout ce qui n'est pas orienté vers Dieu, et en même temps, la manière dont la foi chrétienne, à travers ses traditions, a eu à s'opposer à telle ou telle culture religieuse. C'est important de ne pas simplifier, de ne pas dire jusque-là on a été des affreux et maintenant on a enfin compris que tout le monde est beau et que tout le monde est gentil, ni de dire, ni l'inverse, de dire que jusque-là on avait une attitude juste et que maintenant on est complètement démagogue et laxiste. Mais c'est très, très important de voir que c'est simplificateur et que c'est vrai que la rencontre, non seulement de la foi, mais on va le voir, de la culture chrétienne face aux autres religions, aux autres traditions religieuses, pose un problème réel que je ne peux pas simplifier. Et ce qui est intéressant dans le Concile Vatican II, c'est le fait que cette réflexion, elle est menée à son terme. Et qu'on a un enseignement de l'Église très précis quant à la liberté religieuse et quant au lien entre l'Église et les autres religions, au regard de l'Église sur les autres religions. Alors, il y a tout un nombre de documents. Il y a Lumen Gentium, d'abord. Qui montre en même temps des divers degrés de participation à l'Église et comment l'Église, on y reviendra, est sacrement de salut. L'expression de l'Église comme sacrement de salut pour l'humanité. On verra qu'elle est très importante. Et puis, il y a plusieurs décrets. Il y a le décret sur l'œcuménisme. Il y a le décret sur les religions non chrétiennes. Il y a le décret sur l'Église missionnaire. Et il y a la déclaration sur la dignité, sur la liberté religieuse. Ça devrait faire partie de la lecture de ce que tout chrétien a lu avant le bac. Donc il y a Lumen Gentium. C'est une constitution. Hein. Ensuite, il y a trois décrets. Nostra Aetate. Ad gentes. Ça, c'est des noms latins. Et l'unitatis et l'intégratio. Celui-là est sur l'œcuménisme. Celui-là est sur l'église missionnaire. Et celui-là est sur les religions non chrétiennes. Et puis il y a une déclaration. Le Dignitatis Humanae. Sur la liberté religieuse. C'est ce texte-là qui nous donne le regard le plus précis sur la liberté religieuse. Et auquel certains ont opposé le syllabus. Donc le syllabus est un texte de Pie IX, qui est précédé de, je sais pas ce que c'est, Quanta Cura, je ne sais pas si c'est une déclaration, enfin d'un texte, qui condamnait les erreurs du modernisme. Et aujourd'hui, vous avez, quand on prend les deux textes matériellement, comme beaucoup de textes de l'Église et comme beaucoup de textes de l'Écriture, ils sont contradictoires. Quand vous mettez en face le syllabus d'une part et puis ce texte sur la déclaration de la liberté religieuse d'autre part, l'un en face de l'autre, vous avez l'impression qu'il y a une opposition radicale et qu'il n'y a pas moyen de... qu'il y a deux églises, quoi. Une d'avant le Concile et une d'après le Concile. Et puis quand on le lit avec intelligence et avec foi, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout la même portée. Et que le décret du Concile s'adresse à toute l'Église et à toute l'humanité est une réflexion beaucoup plus approfondie, alors que le syllabus s'adresse à une époque déterminée, dans un lieu déterminé, dans un contexte déterminé, qui est le problème du modernisme. Qu'on va devoir ressouligner d'ailleurs. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'Église se trouve à la fois dans une situation, je dirais, ancienne et nouvelle. Ancienne parce que l'Église primitive a été confrontée à ce problème-là, qui est de rencontrer la civilisation païenne, et d'avoir à exercer son discernement, et d'avoir à comprendre quelle était l'action de Dieu dans un peuple, dans un peuple païen, c'est-à-dire dans un peuple religieux. Hein. Païen, ça ne veut pas du tout dire athée. Hein, les païens sont des gens religieux. Et en même temps, il y a quelque chose de nouveau, parce que précisément, on n'est plus simplement face aux païens, mais on est face aux athées, face à une civilisation athée. Et que la confrontation aussi aux traditions religieuses se fait avec une connaissance beaucoup plus approfondie. Et puis il y a un dernier lieu, voyez, où tout ça est très important, c'est précisément sur le problème de l'Église missionnaire et le problème de ce qu'on appelle l'inculturation. C'est lié à ce même discernement. L'inculturation, c'est précisément de voir comment est-ce que l'Évangile peut se manifester à travers tel lieu géographique et culturel particulier. Et donc, qu'est-ce qui est assumable par l'Évangile? Qu'est-ce qui doit être converti par l'Évangile? Qu'est-ce qui doit être rejeté par l'Évangile? Alors ce qu'on va essayer maintenant, c'est de... Vous voyez, ça c'est pour poser le problème. C'est de voir quelles sont les clés qui nous permettent de réfléchir sur ce problème. La première chose, et c'est le regard fondamental qui sous-tend tout cet enseignement de l'Église, c'est le problème de la recherche de Dieu par l'homme. De l'attitude religieuse de l'homme, de l'attitude naturelle de l'homme qui cherche Dieu. Et donc, déjà de reconnaître que l'homme est naturellement à la recherche de Dieu, et pas nécessairement, ça fait pas partie d'un, vous voyez ce que je veux dire, ça fait partie de sa nature que de chercher Dieu. Il est fait pour ça. On verra, il ne peut effectivement chercher Dieu que s'il est aidé par Dieu. Mais il n'y a pas que le chrétien qui cherche Dieu d'une manière vraie. Voilà. Et cette recherche de Dieu, parce qu'elle est une recherche humaine, elle est nécessairement imparfaite. Et donc je ne peux pas juger la qualité d'une recherche religieuse de Dieu uniquement à partir de la perfection de la révélation. Oui, il est normal que la recherche humaine de Dieu se fasse à travers des tâtonnements, des choses floues, des choses pas précises, et qu'elle soit progressive. Oui, c'est exactement comme dans l'histoire de l'Église. Hein. Quand vous regardez les premiers pères de l'Église, ben, il y a des domaines dans lesquels c'est tout à fait flou. Ça serait, si on prenait matériellement ce qu'ils disent, ça serait qu'il y a des choses qui sont complètement hérétiques. Mais précisément, il y a un devenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas réclamer à quelqu'un qui commence ses études d'avoir la perfection et la précision et la connaissance de quelqu'un qui en a fait pendant 20 ans. Ben, c'est important d'apprendre à poser un jugement sur la recherche de Dieu par l'homme, que ça soit dans les traditions religieuses ou que ça soit dans notre monde d'aujourd'hui, où vous avez des gens qui cherchent Dieu, mais comme ils partent de rien du tout, ben c'est pas simple. Vous voyez, il faut apprendre à... Je ne peux pas plaquer la vision chrétienne, la théologie chrétienne, en disant voilà, tout ce qui ne s'oriente pas de manière évidente vers cette recherche théologique est nécessairement faux. Mais il faut essayer de comprendre comment est-ce que la recherche de Dieu par l'homme passe par la même évolution que la connaissance de l'enfant, qui d'abord se sert d'images avant de réussir à comprendre les choses en profondeur, et qui a beaucoup de mal à dépasser les images. Même quand il a 45 ans ou 60 ans. Non, mais on va le voir, parce que c'est vrai que l'approche d'une tradition religieuse nécessite précisément d'essayer de comprendre de l'intérieur une tradition religieuse. Et de ne pas dire parce que c'est symbolique, c'est des primitifs, vous voyez, qui n'ont aucun sens de Dieu. Nous, on a la connaissance spéculative, parce que la connaissance spéculative, elle peut être, comment dire, beaucoup moins... On en hérite de la connaissance spéculative. Si on l'avait redécouverte par nous-mêmes, elle serait vraiment pure. Mais elle peut être tout aussi primitive, donner lieu à une attitude religieuse encore plus primitive et encore plus réductrice qu'une civilisation, vous voyez, qu'une tradition religieuse qui a des symbolismes très grossiers. Vous avez, c'est vrai, c'est ce qu'on voit, dans certains cas, on rencontre des chrétiens qui ont une attitude religieuse qui est beaucoup plus réductionniste et primitive au sens négatif du terme que l'attitude religieuse de certaines civilisations, que ce soit africaines ou indiennes, qui ont des éléments qui ont des caractères symboliques qui nous font très peur. Parce que c'est la deuxième chose, vous voyez, discerner la qualité de la recherche de l'homme vers Dieu. Ça ne peut absolument pas se faire de l'extérieur. Je peux savoir par cœur le catéchisme du Concile de Trente et avoir une foi qui n'est même pas une foi chrétienne, enfin qui n'est même pas une foi juive, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des gens qui connaissent parfaitement le Concile de Trente, qui croient que l'Église dit des choses très intéressantes, mais qui n'ont jamais réfléchi au fait que l'adoration, c'était un acte personnel. Donc qui sont à un seuil religieux qui n'est même pas encore celui de l'animiste, si vous voulez. Non mais vous riez, je crois que c'est important de voir que le discernement de l'attitude religieuse, il y a d'une part l'objectivité du discours religieux. Vous voyez, alors je mets un ordre dans l'objectivité du discours religieux. Et c'est vrai que le catéchisme du Concile de Trente présente une vision de Dieu qui est plus élaborée qu'un mythe sumérien ou tout ce que vous voudrez. Mais ça, c'est la dimension objective de la religion. Mais la recherche de l'homme par Dieu, c'est une recherche personnelle. La qualité de cette recherche, elle est par la personne, elle n'est pas par le discours. Ou si vous voulez, vous pouvez avoir une recherche tout à fait vraie et très 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 grande de Dieu à travers une tradition qui est très pauvre, et une pauvreté lamentable d'attitude religieuse à travers une tradition très riche. Oui, c'est important de distinguer l'aspect objectif, si vous voulez, le discours religieux, que ça soit un mythe ou que ça soit un dogme, et de voir qu'il y a un ordre, que le dogme il s'appuie pas d'abord sur des images dans le cas de la foi chrétienne, et puis l'attitude personnelle, qui est le véritable lieu de la recherche de Dieu. C'est très important de dire, vous voyez, c'est ce que les missionnaires ont appris progressivement à distinguer. À voir qu'on pouvait rencontrer dans une tradition très fruste une attitude religieuse très profonde. Alors qu'inversement, on peut rencontrer très souvent dans une tradition très élaborée une attitude religieuse inexistante. Et même des fois un athéisme larvé. Oui, c'est. Et ça, si vous voulez, ça, je dirais, c'est le fruit. C'est vrai qu'il y a un mûrissement de ce côté-là qui est lié à une découverte des traditions religieuses de l'intérieur, qui est lié aux sciences humaines, entre autres, et qui est lié aux missionnaires, qui ont été les premiers ethnologues du monde occidental. Et donc, c'est, si vous voulez, c'est dans la lumière de ce mûrissement aussi que l'Église porte un jugement sur les traditions religieuses. Et qu'elle comprend bien que dans un dialogue avec des hommes, on ne dialogue pas avec une religion, on dialogue avec des hommes. Et que c'est une chose de réfléchir en soi sur le contenu objectif d'une religion, c'est autre chose de dialoguer avec des hommes qui cherchent Dieu. Vous voyez, c'est très important de distinguer les deux. C'est vrai dans l'Église pour les courants théologiques, enfin vous voyez, pour les sensibilités différentes, c'est vrai dans l'œcuménisme vis-à-vis des orthodoxes ou vis-à-vis des protestants, et c'est vrai dans le dialogue avec les autres religions. On ne s'adresse pas à, vous voyez, on s'adresse pas aux représentants d'une idéologie religieuse. On s'adresse à une personne qui cherche Dieu. Et c'est très important de voir que l'Église veut maintenant, enfin, son désir est de situer le quand il y a un dialogue à avoir, que ça, qu'il soit œcuménique ou avec les autres religions, de le situer à ce niveau-là. Sans éviter l'affrontement, si vous voulez, du contenu théologique. Et en voyant bien les différences du contenu théologique. Mais en prenant conscience qu'au fond, dans les trois quarts des cas, c'est pas en discutant au niveau du contenu théologique qu'on arrivera à quoi que ce soit. Oui, ça, c'est, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est évident que la réflexion théologique sur la différence entre le protestantisme et le catholicisme, sur la différence entre la foi chrétienne et la foi juive, entre la foi chrétienne et l'attitude religieuse hindoue, elle permet de préciser les différences. Mais c'est absolument pas de cette confrontation des différences qu'on va pouvoir commencer quelque chose. Point de vue concret, vous voyez. Point de vue théorique, c'est très important. Mais pas au point de vue concret. C'est pas en commençant par expliquer à l'autre que vous avez raison et qu'il a tort que vous allez pouvoir l'aider à comprendre ce que vous dites. Bien que c'est vrai que vous pouvez savoir qu'objectivement vous avez raison et qu'il a tort. Oui. C'est la différence entre l'attitude théologique et l'attitude de charité fraternelle, qui ne doivent pas s'opposer, mais dans lesquelles il y a un ordre.
Et que ça soit tellement mal que maintenant c'est lieu en privé.
Oui.
C'est très intéressant.
Oui, tout à fait. Ce que nous disait aussi le professeur Zinoviev qui est venu ici et dont que découvre tout un nombre d'orthodoxes aussi, que le problème du dialogue avec les orthodoxes, c'est qu'il s'est situé tellement toujours au niveau dogmatique, sur lequel d'ailleurs il n'y a pas énormément de problèmes, mais les quelques problèmes qu'il y avait sont devenus des montagnes, parce qu'on sait bien qu'un théologien se bat jusque dans les petits détails et qu'il suffit que l'autre soit pas d'accord avec lui sur un détail pour qu'il ait envie de le brûler, mais que au point dès qu'on se remet dans la charité fraternelle, on s'aperçoit qu'on est infiniment plus proche qu'on ne le croyait. Vous voyez, je dis ça parce que ça sous-tend tout le discours de Jean-Paul II à Assise, qui est un chef-d'œuvre de précision. Vous voyez, quant à cette distinction entre la différence objective entre la foi chrétienne, qu'on va essayer de repréciser, hein, entre la foi chrétienne et puis les traditions religieuses, et d'autre part, entre la foi chrétienne et la foi juive, qui est un cas particulier, et puis cette volonté de communier dans une même recherche. Vous voyez, Si je sais où est la différence, je peux mieux coopérer avec l'autre. Vous voyez, et les deux sont nécessaires. Je ne peux pas coopérer avec l'autre si je ne sais pas où est la différence. Donc la connaissance est préalable au dialogue. Parce que le dialogue, ça ne consiste pas à dire, bon, bah, jusque-là, on était dans le théologique, tout ça, ça ne vaut rien du tout, on est tous tout à fait d'accord. Parce que ce n'est pas vrai, on n'est pas d'accord. Ben c'est, je crois que c'est important, vous voyez, de voir que face à une tradition religieuse, c'est la même attitude qu'on doit adopter. Et la recherche d'une compréhension intérieure d'une tradition religieuse, pour y discerner ce qu'elle a de juste et de pas juste. Alors ce discernement ne se fait pas d'abord par rapport à la foi chrétienne, et c'est ça que je crois qui est très important, c'est de voir que ce premier discernement sur la qualité de la recherche de Dieu par l'homme, qui est un discernement que le chrétien doit avoir, mais que l'homme doit avoir lui-même, est un discernement qui ne se fait pas à la lumière de la révélation chrétienne, mais un discernement qui se fait à la lumière de l'attitude religieuse de l'homme. Ou si vous voulez, je ne confronte pas le mystère de la Trinité au problème de la recherche de l'unité divine dans la tradition hindoue. C'est stupide. Je confronte l'adoration du Dieu un, vous voyez, la découverte de l'unité de Dieu, de la simplicité de Dieu, de la perfection de Dieu et de la bonté de Dieu, à la tradition hindoue. Vous voyez, il y a un premier discernement, si vous voulez, qui est à un niveau humain, qui est présent dans l'Église, mais qui ne nécessite pas la révélation, une révélation surnaturelle. Que la révélation du Christ me donne un sens plus aigu de ce que c'est que la véritable attitude religieuse et la véritable adoration de Dieu, ça c'est vrai. Mais je ne confronte pas, je n'ai pas à confronter une, vous voyez, un don surnaturel à une recherche naturelle. Vous voyez, c'est très important de voir ça. C'est pour ça que la réflexion philosophique sur ce que c'est que l'attitude, la recherche de l'homme vis-à-vis de Dieu, l'attitude religieuse naturelle de l'homme, est quelque chose d'indispensable. Vous voyez, ce dont vous avez parlé, le père Marénin, ce qu'on appelle la vertu de religion. La compréhension de ce que c'est que la vertu de religion, c'est ça. C'est de comprendre quelle est l'attitude humaine plénière et juste de l'homme dans sa recherche de Dieu et devant Dieu. Vous voyez, je pense par exemple à un problème comme la réincarnation. La réincarnation est un problème que je ne vais absolument pas aborder à partir de ma foi chrétienne. Je vais partir de mon expérience de la personne humaine pour dire que la réincarnation est une aberration. Je ne vais pas me servir de la foi chrétienne. Je trouverai une confirmation dans l'enseignement de l'Écriture. Et je trouverai une confirmation dans l'enseignement du Christ. Mais, vous voyez, je ne vais pas situer la confrontation au niveau de la réincarnation. Au niveau de la foi chrétienne. C'est très important, vous voyez, de voir que, on va le revoir, si la foi me permet d'être plus humain et purifie mon attitude humaine, il y a toute une réflexion et tout un discernement qui ne nécessite pas la dimension proprement surnaturelle de ma foi. Parce que c'est vrai que j'ai quand même à essayer de discerner la qualité d'une tradition religieuse. L'homme a à exercer un discernement quant aux traditions religieuses. Il n'a pas à les recevoir comme ça. Il a à éprouver la qualité des traditions religieuses. De la même manière que le chrétien reçoit de manière inconditionnelle le mystère de la tradition. Mais il a à exercer un discernement quant aux traditions locales, familiales, vous voyez, et à discerner ce qui relève véritablement de la tradition et ce qui relève des traditions. Vous voyez, je crois que c'est important de voir que il est nécessaire d'apprendre à acquérir, vous voyez, cet instrument de discernement qui est la compréhension de l'attitude humaine. Alors la question qu'on doit se poser, c'est au fond, jusqu'où doit aller une véritable attitude religieuse? voyez, et qu'est-ce que doit impliquer une véritable recherche de Dieu? Et quel est le véritable regard que l'homme peut avoir sur Dieu? Et c'est vrai que de découvrir que si l'homme recherche vraiment Dieu, il découvrira que Dieu ne peut être qu'un, que simple, que bon, que parfait, que personnel. Qu'il ne peut être que créateur et que sa création ne peut être que gratuite et libre. Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous le développer, mais tout ce qu'on appelle la théologie naturelle, c'est ça. C'est d'essayer de dégager ce que souvent d'ailleurs dans notre intelligence humaine, hein, même si on a la foi, on est complètement incapable de découvrir. Oui, c'est là qu'il faut avoir un peu faut avoir l'humilité, c'est que par la foi je sais que Dieu est un, qu'il est simple, qu'il est bon, enfin vous voyez, qu'il est créateur et qu'il a créé librement le ciel et la terre, et que comme chef-d'œuvre de la création il a créé l'homme et la femme, et que l'homme est fait pour attendre le salut parce qu'il est dans un état de péché. Ça je le sais par la foi. Mais pour pouvoir discerner dans une tradition religieuse qui se donne à travers tout un mode symbolique, qui a un discours et un langage symbolique, qui est rarement un langage théologique très précis. Pour réussir à discerner dans cette tradition religieuse ce qui correspond et ce qui ne correspond pas à ce que je reçois dans la foi, je suis incapable de le faire tant que je n'ai pas par moi-même, humainement, redécouvert ce que la foi m'enseigne. Vous ne pouvez pas, c'est impossible si vous voulez, de prendre, je ne sais pas, une religion, la pratique religieuse d'une tribu africaine, et de plaquer dessus ce que vous savez par la révélation chrétienne pour dire voilà, là, là, et là, et là, ils se sont trompés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça réclame de comprendre qu'est-ce que c'est que cette recherche de l'homme par Dieu. Vous voyez, ma foi n'a absolument pas supprimé l'attitude religieuse en moi, dans mon cœur et dans mon intelligence. Alors j'ai à laisser ça à des plus savants que moi, vous voyez, je veux dire, mais à savoir que je ne peux pas plaquer ce que je sais sans l'avoir redécouvert sur une attitude religieuse qui, elle, est une recherche de Dieu. Je crois que c'est très important. Je dis ça parce que, par exemple, on voit en Afrique, on s'est aperçu qu'au fond, que l'attitude religieuse était beaucoup plus nuancée que ce qu'on pensait. C'est pas parce que les symbolistes peuvent nous apparaître grossiers que l'attitude intérieure n'est pas beaucoup plus compliquée que ça. Et on sait maintenant que pratiquement dans toutes les traditions africaines, il y a un monothéisme. Mais que le nom de Dieu n'est jamais prononcé. Mais que l'existence d'une divinité qui est complètement au-delà des autres est quelque chose qui est présent, mais qui n'apparaît pas à travers tel et tel texte, qui n'apparaît pas à travers un rituel qui, lui, est très... à des côtés ou polythéistes ou des côtés... animiste, c'est-à-dire où on croit à la présence de la divinité à travers tous les êtres de chair et de sang, à travers tous les vivants. Alors vous voyez, il y a deux excès. Il y a l'excès qui est celui-là, qui est de plaquer ce que je reçois sans vraiment le comprendre de la révélation sur une autre tradition, pour essayer de voir tout ce qu'il y a de faux. Et l'autre attitude, qui est dans certains cas celle de certains ethnologues aujourd'hui, qui est de dire de toute façon toutes les traditions se valent, donc quel que soit, j'ai à regarder à même niveau toutes les formes de manifestations religieuses. Qu'on massacre les enfants à la divinité ou pas, ça n'a pas d'importance, chaque système a sa valeur en soi. Vous voyez, c'est les deux excès. Et j'ai à comprendre qu'il y a un ordre objectif, et que toutes les traditions religieuses n'ont pas la même valeur, je ne peux pas dire ça. J'ai à exercer un discernement. Et que dans les traditions religieuses non chrétiennes, il y a un ordre. Et il y en a qui sont beaucoup plus proches d'une véritable recherche de Dieu que d'autres, qui se sont complètement enfermés dans un système symbolique, mais qui ronronnent et qui s'alourdissent et qui sont pas du tout, enfin qui ne cherchent plus du tout Dieu. Et ce que je crois important de voir, c'est que la véritable attitude religieuse, elle va jusqu'à l'attente du salut. Attendre le salut, ça fait partie de l'attitude naturelle de l'homme. Parce que si l'homme cherche Dieu, s'il découvre, s'il entrevoit qui est Dieu, et s'il est lucide sur ce qu'il est, il ne peut pas ne pas voir qu'il est dans un état de, disharmonie vis-à-vis de Dieu. Qu'il est dans un état qui est un état tragique. Il n'est pas dans un état de paix et d'harmonie vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit dans toutes les traditions religieuses quand on voit la présence du sacrifice. Et donc, c'est important de voir que l'attitude religieuse, elle va jusque-là. Ce qu'il y a de dernier dans l'attitude religieuse, c'est l'attente du salut. C'est d'attendre de Dieu d'être sauvé de l'état de souffrance et de mort dans lequel on est. Vous voyez qu'au fond, toute religion qui essaiera de me, soi-disant, de me procurer le salut, ben là, j'aurai un discernement à avoir. Parce que presque toutes les traditions religieuses cherchent à me donner le salut d'une manière ou d'une autre. Et j'aurais essayé de comprendre comment est-ce que... Ben souvent, c'est parce que l'attitude religieuse, l'homme n'a pas eu le courage de continuer d'attendre le salut. Parce que c'est vrai, quand on attend trop, on en a assez, alors on s'invente des réponses. Et dans l'histoire des traditions religieuses, c'est ça. Le problème de la souffrance et du mal est tel qu'il faut bien s'inventer des réponses, sinon on ne tient pas le coup. Alors il y a deux remarques. La première, c'est que cette recherche de Dieu, le chrétien pourra affirmer qu'elle n'est possible que sous l'action de la grâce. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est possible que dans l'Église. Mais que, comme le dit saint Thomas, sans la grâce, à part planter des choux et bâtir des maisons, on n'est pas capable de grand-chose. L'homme, vous voyez, dès que l'homme a à accomplir un acte bon, c'est-à-dire un acte qui dépasse sa propension à la paresse et à ne rien faire. Ou qui dépasse ses capacités d'efficacité, parce que ça c'est un domaine dans lequel il peut aller très très loin, tout en restant complètement dans le péché, et sans avoir absolument besoin de la grâce. Mais dès qu'il s'agit de se dépasser lui-même, personnellement, hein, pas techniquement, alors il a besoin de la grâce, dès qu'il s'agit de faire le bien au sens fort du terme. La persévérance dans le bien est impossible sans la grâce. Que je sois bouddhiste, musulman, hindou, shintoïste ou chrétien. Mais ça n'empêche que cette recherche soit une recherche naturelle. Oui, c'est pas parce que c'est à cause de ma foi et de mon amour du Christ que j'arrive à me lever tous les matins à l'heure qui est prévue, que c'est quelque chose de surnaturel que de se lever le matin à l'heure qu'on a prévu. Oui, ou simplement de ne pas marcher sur le pied de son voisin quand il vous énerve. Vous pouvez ne réussir à le faire que par la vertu de la grâce, ça n'empêche que c'est quand même naturel. Oui, ça ne relève pas, ça n'est pas un acte qui formellement est surnaturel que de ne pas marcher sur le pied de son voisin quand il vous énerve. Alors ce qu'on verra ensuite, c'est comment est-ce que cette dimension de recherche de Dieu, elle est présente dans l'Église, et quelle est la place du judaïsme, vous voyez, du peuple d'Israël par rapport à ça, parce que c'est très important. Si vous avez des questions, c'est peut-être bien de les noter puis de me les donner avant chaque cours. On fera comme le Père Marianin a fait hier, c'est-à-dire que première heure de l'après-midi, s'il y a des questions, on y répondra, puis ensuite on embrayera directement, parce qu'il y a quand même de la matière.